Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la Marine Nationale, de son actualité et de ses perspectives, j'ai le plaisir de recevoir l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Marine. Donc bonjour amiral, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, évidemment, on va parler des grandes dynamiques de la marine, de son format et de ses ressources, notamment avec l'éventualité du retour vers des affrontements de haute intensité, ce qui est, semble-t-il, le grand horizon stratégique des armées depuis quelques mois et quelques années. Mais l'intérêt d'un format comme celui-ci, c'est aussi de permettre d'avoir une perspective un peu plus personnelle pour que les auditeurs comprennent un peu qui est le chef d'état-major de la marine et d'où il vient. D'abord parce que dans l'absolu, c'est très intéressant et tous les parcours, mais en particulier un comme le vôtre, disent quelque chose des armées françaises depuis 30 ans, mais aussi parce qu'évidemment, j'imagine que ça informe votre vision de cette grande machine, de cette grande structure que vous dirigez depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, la première question que j'aime bien poser à tout le monde, mais en particulier aux marins, c'est celle de l'entrée dans la vie militaire. Alors, évidemment, vous avez passé un concours, celui de l'école navale, puisque c'est comme ça qu'on commence une carrière d'officier comme la vôtre. Mais, bon, la question derrière, c'est pourquoi et qu'est-ce que vous vouliez faire en passant ce concours? Est-ce que c'était devenir militaire en général, et ça aurait pu être une autre branche des forces armées? Est-ce que c'était spécifiquement être marin, ou bien est-ce que c'était peut-être être marin et aviateur, puisqu'on peut tout de suite dire que vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la chasse embarquée?
Je suis rentré dans la marine un peu, j'irais presque par hasard, à la fois par vocation mais par hasard. J'avais une fin de scolarité du secondaire un peu chaotique, j'étais pas extrêmement brillant, et donc je suis rentré en maths sup bio, j'ai fait des études de biologie. Et cette année de prépa était un peu une révélation, et donc du coup je suis rentré au lycée naval, après une première maths sup, et puis je suis rentré à naval après. Et en fait ce qui m'a guidé dans cette volonté, cette ambition, c'était le goût de l'aventure, l'idée de se dire que en embrassant la carrière d'officier de marine, j'allais pouvoir faire le tour du monde, pouvoir rencontrer des gens de l'autre côté de la planète, et vivre en équipage des aventures extraordinaires.
Alors, juste, il y a aussi souvent une partie un peu familiale à cette affaire, puisqu'on peut dire que votre père était commissaire général de la marine, ce qui est un poste qui a disparu, mais qui était très important à l'époque. C'est quelque chose qui n'est pas rare non plus, qui n'est pas exceptionnel. On peut dire votre prédécesseur, l'amiral Prazu, qui était lui aussi fils d'amiral, c'est loin d'être la règle, mais c'est quelque chose d'assez courant aussi. Comment est-ce que vous voyez cette dimension? Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de tradition, de familiarité, disons, dans le fait que y a des officiers qui fassent d'autres officiers, l'idée qu'il y ait une continuité dans cette grande famille qu'est la Marine nationale au sens propre et au sens figuré.
Je n'ai absolument pas été poussé par ma famille d'une quelque manière que ce soit pour faire ce métier, donc c'était vraiment un choix personnel, et c'est en me retournant quelques années plus tard que j'ai vu un peu le sang salé qui coulait dans mes veines. J'ai effectivement, mon père était commissaire général, et puis j'ai un grand-oncle qui porte le même prénom que moi, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, et donc c'est quelques années plus tard où je me suis repenché un peu sur les archives familiales, et puis donc j'ai pu y voir une forme de continuité.
Alors, je l'ai dit, vous avez passé une grande partie de votre carrière dans la chasse embarquée. Alors, la question, c'est comment est-ce que ça s'est fait, ce choix de l'aéronautique, de l'aéronaval à l'école navale? Alors, je vais juste préciser, vous avez peut-être eu une fin de secondaire un peu chaotique, mais je vais préciser que vous êtes entré premier et sorti premier de l'école navale. Alors, on n'est pas là pour faire vos états de service scolaire, mais c'est juste pour dire que vous aviez le choix, quoi. Vous auriez pu aller dans la partie de la Marine nationale que vous aviez envie. Et on peut peut-être préciser pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de ça, que ce n'est pas une règle, mais disons qu'au sein de la marine, il y a un certain prestige, un certain attrait, notamment de ce qu'on appelle la sous-marinade, des sous-marins, et il est assez fréquent que, pour les élèves qui sortent dans le haut du panier, se dirigent vers les sous-marins, parce que c'est la dissuasion, etc. C'est très prestigieux. Donc, est-ce que la question s'est posée déjà, même si c'est une vie particulière de faire carrière dans les sous-marins? Et puis, comment est-ce qu'ensuite vous avez fait choix, donc de la mer, mais aussi des airs, en fin de compte?
En fait, quand je suis rentré à l'école navale, j'étais, comme on dit, fan à sous-marin. Et donc, j'avais beaucoup réfléchi à ce métier, à son engagement. Côté chasse sous-marine, j'avais lu Octobre Rouge. Donc je connaissais un peu ce milieu par environnement. Et puis, au fur et à mesure des mois à l'école navale, j'ai découvert l'aviation. Il y a une escadrille qui s'appelle la 50S dans laquelle on peut apprendre à piloter. Et puis, j'ai eu des instructeurs, notamment sur la Jeanne d'Arc, qui m'ont fait rêver là aussi et qui ont décuplé mon goût de l'aventure en me disant finalement, dans l'achèvement personnel recherché à travers ce métier, la chasse embarquée était très probablement une forme de défi personnel Et donc je me suis lancé dans cette affaire en reniant ma fanature du début.
Mais alors, est-ce qu'il y avait aussi une partie, je ne sais pas, peut-être de contexte de la marine à ce moment-là? On peut dire, bon, donc vous avez fait votre scolarité à la fin des années 80, au début des années 90. C'est, enfin, je veux dire, c'est aussi le moment de très gros projets pour l'aéronaval. Il y a le Charles de Gaulle qui est en construction. Il y a le Rafale marine aussi qui va arriver. D'ailleurs, on dira après, mais vous avez joué un rôle dans sa mise au point au début des années 2000. Donc, est-ce qu'il y avait une sorte de, je ne sais pas, une conscience ou une intuition qu'il se passait des choses dans ce secteur-là, à cette époque-là, et que, bah, je ne sais pas, peut-être il fallait en être en quelque sorte?
Au risque de vous décevoir, non. L'horizon, c'était le Foch et le Clémenceau, c'était le Superétendard, qui, dans les années 90, était quand même un avion en pleine maturité. Donc le Rafale, ça paraissait loin. D'ailleurs, à l'école navale, on a passé son temps à nous dire qu'il allait être retardé. Il devait y avoir 12 avions en 96, et puis ça s'est terminé par 3 avions en 2000. Donc l'horizon était, en tout cas dans mon espace-temps professionnel, beaucoup plus celui du matériel en service. Donc c'était pas absolument pas par calcul, c'était encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense que quand on a 20 ans et qu'on se lance dans ce métier, c'est par le goût de l'aventure, quelle que soit la spécialité.
Alors il y a l'aventure, il y a plein de types d'aventures, il y a l'aventure géographique, c'est-à-dire partir loin, etc., faire le tour du monde sur des bateaux, il y a aussi l'aventure technique, technologique, puisque j'ai commencé à y faire référence, mais on peut dire que vous avez été le premier commandant de la flottille de Rafale Marine, donc au début des années 2000, au moment où il fallait faire des tests, la mise au point. On peut préciser tout de suite, en faisant bon dans le temps, qu'après vous avez été à la division plan de l'état-major des armées, à un moment où il y avait aussi plein de projets, le Tigre, le Caïman, en termes d'hélicoptères, les modernisations du Rafale aussi. Est-ce qu'il y a aussi une partie, je sais pas, technique, est-ce que ça vous plaisait, cette partie test, mise au point, progrès technologique dans la marine?
La formation de pilote, dès le début, en fait, elle est très technique. On apprend son avion par cœur, on en connaît la technologie, les limites, et donc ce qu'on appelle le stage d'instruction technique qu'on fait dès son premier avion est très très complet, et il donne le goût de l'ingénierie. Donc ça, on l'apprend sur le Cap 10, sur le Fuga Magister, sur l'Alpha Jet, puis sur le Super Étendard. Et donc, évidemment, sur le Rafale. Voilà, ma carrière aéronautique, elle a été donc à 2/3 sur Super Étendard et 1/3 sur Rafale. Sur Super Étendard, j'ai eu la chance de participer à des opérations réelles, notamment pendant ce qu'on appelait la guerre du Kosovo, où donc la France a participé de manière très active, marine et armée de l'air, à des opérations au-dessus de la Serbie et au-dessus du Kosovo. Et donc ça m'a donné une expérience très opérationnelle que j'ai pu mettre à profit en arrivant sur Rafale, où j'ai rejoint pour le coup des pilotes très, très expérimentés sur le plan technique, des pilotes d'essai qui avaient participé pendant plus d'une demi-douzaine d'années à la mise au point du Rafale. Et donc ça a été là un peu un changement de vision, un travail très imbriqué avec l'industrie, avec les ingénieurs de Thales, de Dassault, de MBDA, pour résoudre les problèmes de jeunesse d'un avion d'une très très forte ambition.
Oui, d'ailleurs, j'ai même pas pensé, mais vous êtes encore. Enfin, quel est le. Enfin, je sais pas, est-ce que vous travaillez chez Dassault au quotidien? Est-ce que vous êtes dans les. Enfin, où est-ce que ça se passe, ces tests? Où est-ce que ça se passe, disons, ce développement? Est-ce que ça reste dans le giron de la Marine nationale, alors même que c'est pas encore opérationnel? Ou est-ce que vraiment vous allez directement voir les industriels, les laboratoires presque?
Ouais. À l'époque du Rafale, donc il a été mis au point avec les équipes de la DGA et puis le centre d'essai en vol, où donc on a bien des pilotes marins, mais il y avait également des pilotes de l'armée de l'air, des pilotes de la DGA. Et donc ça, c'est la boucle dite de développement. Et puis ensuite, dans la mise au point, là, les forces se sont retrouvées dans une situation un peu particulière d'avoir des contacts directs avec l'industrie pour résoudre en boucle courte des problèmes qui étaient des problèmes de jeunesse, mais assez importants, et qui nécessitaient des liens forts entre les utilisateurs et les concepteurs. Aujourd'hui, là, dans mes fonctions, c'est un petit peu différent. On fait de la stratégie, on discute avec les patrons. On n'est pas dans la technique.
Mmh. Et justement, je crois que vous êtes le premier pilote de l'aéronaval que je reçois, donc je vous profite pour poser toutes les questions qui me viennent. Mais comment est-ce que vous articulez en quelque sorte la chose entre le rôle de pilote de chasse embarqué, où vous êtes tout seul dans le cockpit, et bah, le fait que vous êtes un officier de marine, et donc de temps en temps vous êtes en poste sur la flotte de surface, vous gérez des dizaines, des centaines de personnes en tant qu'officier opération, enfin, vous avez une fonction, disons, organique à l'intérieur de l'ensemble du navire. Est-ce que pour vous c'est un peu la même chose, puisque de toute façon il y a une équipe à gérer, ou est-ce que bah, il y a une expérience radicalement différente du pilote et de l'officier ?
Alors, le paradoxe du pilote de chasse, c'est qu'il est seul dans son avion, en tout cas dans la marine, n'a pas de biplace. Et donc, comme on m'a dit le jour de mon lâcher, on est tout seul.
C'est quoi le jour du lâcher ?
C'est le jour où on décolle pour la première fois dans son avion seul. Bon, et quand c'est un monoplace, c'est encore plus drôle, puisqu'on n'a jamais volé dedans. Je me souviens de mon instructeur, le jour de mon lâcher sur Super Étendard, me disant « à partir d'aujourd'hui, il faudra que tu résolves seul tes problèmes de pilotage ». Donc il y a un côté effectivement assez solitaire, assez face à soi-même, mais il n'y a pas une seule mission aérienne qu'on ne fait pas à plusieurs, à 2, à 4, à 6, à 15 avions. Donc derrière, c'est quand même un énorme travail d'équipe. Et on voit quand on fait ce qu'on appelle des COMAO, c'est-à-dire en fait des gros vols briefés de manière complexe, pour par exemple des opérations dans la profondeur, des opérations de projection de puissance, c'est un travail d'équipe phénoménal. C'est parfois des dizaines d'heures de préparation à plusieurs, en équipe, en sous-groupe, etc. Donc on retrouve la dimension d'équipe et d'équipage. Une flottille de chasse, c'est 120 à 150 personnes, techniciens, pilotes, préparateurs de mission. Et donc là aussi, ce qui permet à un pilote ou à un groupe de pilotes de faire une mission, c'est bien un travail d'équipe. Donc il n'y a pas de différence fondamentale, surtout qu'en plus, ces équipes sont embarquées, et donc on a une vraie vie de marin. Sur un porte-avions, on retrouve le rythme des quarts, le bruit, les catapultes, l'exiguïté, l'absence d'escale parfois, voilà. Donc on est assez vite immergé, donc il n'y a pas vraiment de... J'ai pas ressenti de grosse différence entre le métier de marin et le métier de pilote dans l'aviation embarquée. On vit les choses peut-être un peu différemment, pas au même rythme, parce que effectivement les bateaux vont un peu moins vite, il y a le rythme du quart, alors que la vie de pilote est rythmée par les missions, donc c'est un petit peu différent.
Et qu'est-ce que, c'est une question que je pose souvent aussi, mais qu'est-ce que vous considériez comme votre baptême du feu ? Alors, parce que vous avez vu plein de choses, en fait, dès les années 90, donc vous avez été sur l'agenda, puisque tous les officiers à la sortie de l'école navale passent sur l'agenda, mais c'était déjà en pleine guerre du Golfe, ensuite vous avez participé à des opérations en Bosnie, au Kosovo, etc. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous avoir fait tirer dessus ou d'avoir tiré sur des gens, mais même symboliquement, c'est quoi le moment où vous êtes dit, bon, voilà, ça c'est la guerre, c'est le baptême du feu ?
Ben en août 90, donc moi, mon aviso escorteur est à Djibouti, Saddam Hussein envahit le Koweït, et on nous envoie avec un vieux bateau, l'aviso escorteur commandant Bory, qui avait quand même son âge, on nous envoie dans le golfe Persique, sous menace missile, et puis on a les premières mines dérivantes qui sont mises à l'eau par les forces de Saddam Hussein. On en retrouve tous les jours, 5-6, et on se retrouve à naviguer.
Et
avec
quoi, 5-6 autour du bateau qui...
Dans la zone, donc dans le golfe, c'est à la fois grand et petit le golfe. Hein.
Et ça se voyait, enfin, elle flotte à la
surface. De jour, on voit, oui, c'était des mines dérivantes, c'est des mines à haut rein, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont normalement immergées sur des fonds assez faibles, et puis là, on coupe le rein, et donc elles flottent, elles dérivent, et elles explosent au contact. Donc on dirait un peu un sac poubelle qui flotte de loin, et puis en fait, c'est un truc avec des petites cornes, et quand la corne se casse, la mine explose. Donc de jour, on les voit, de nuit, c'est plus dur. Donc quand on naviguait de nuit, on prenait des dispositions, mais donc il y avait un risque important. La brigade sécu dormait sur le pont d'envol, on avait fait cloisonner le bateau, tout le monde avait sa Mai West à portée de main.
Et je me souviens que... rappelant sur les gilets de sauvetage.
Gilets de sauvetage, ouais. Ça a été, moi je sortais de la Jeanne et je me souviens d'avoir vu cet équipage qui était un équipage constitué pour des missions outre-mer, pour des escales, de la présence, des exercices, s'approprier le risque collectif et individuel. Et donc ça m'a beaucoup frappé, ça a orienté un peu ma façon de voir les choses après, en disant effectivement, la guerre, c'est déjà l'exposition personnelle. C'est déjà subir le feu de l'autre, et puis après, ben, évidemment, c'est le porter et donc utiliser ses armes. Mais donc cette menace omniprésente, que ce soit des missiles ou des mines, pendant des semaines et des semaines et des semaines, ben, ça vous travaille quand même. C'est-à-dire que vous pensez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous pensez que tout peut s'arrêter très très brutalement. Et donc ça a été ça un peu le virage, et quand j'ai rejoint l'aviation embarquée, j'avais déjà cette conscience. Dans le Golfe, pendant la guerre du Golfe, il y avait 4 porte-avions américains, et donc on participait à l'escorte de ces 4 porte-avions. Donc j'ai pu voir dans mes jumelles de chef de car les F-14 partir et revenir, les A-6, les Hawkeye, et donc ça m'a donné le boost pour entrer dans ce métier.
Alors évidemment, ensuite vous passez donc dans la chasse embarquée. Alors il y a le Foch, le Clémenceau qui étaient les deux porte-avions. Ensuite il y a le Charles de Gaulle à partir du début des années 2000. Et on va juste préciser, en fait, mais on l'a dit, parce que c'est une carrière de pilote de chasse, c'est aussi une carrière d'officier de marine. Et donc il y a des allers-retours naturels entre la chasse embarquée et des commandements. Alors vous avez notamment commandé le Surcouf, qui est une frégate furtive. D'ailleurs, je peux dire qu'en 2007, c'est ce bâtiment sous votre commandement qui a présidé, disons, à la libération des otages du Ponant. Vous avez été aussi en poste à la direction plan, je l'ai dit, mais aussi chef de la cellule de crise à l'état-major des armées au moment de l'opération Serval en 2013, ce qui a dû être un moment, disons, intéressant à tous les points de vue. D'ailleurs, c'est compliqué parce que vous étiez là au moment du déclenchement de l'intervention directe de la France au Sahel. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment quelque chose qui reste très structurant, ça reste un des problèmes, un des soucis stratégiques, disons, français. Comment est-ce que vous voyez cette chose-là, en quelque sorte, avec votre expérience directe? Après, vous êtes allé faire d'autres choses, évidemment. Mais comment est-ce que vous appréhendez cette situation à la lumière de votre expérience, au moment déclencheur, en tout cas?
En fait, au moment où l'opération a été déclenchée, il y avait des signaux précurseurs qui avaient commencé à poindre quasiment 2 ans avant. C'est-à-dire que l'armée malienne avait été faite dans le nord, donc les djihadistes s'étaient installés jusqu'à Gao, et puis ensuite ils avaient passé le Niger et ils menaçaient la partie sud de l'Azawad, en fait, la bande exploitable sur le plan agricole qui est au sud du fleuve Niger. Donc on avait eu beaucoup de signaux préparatoires, on savait que les choses allaient devenir plus compliquées. À l'époque, le président Hollande avait dit clairement qu'il ne souhaitait pas qu'on intervienne. Et donc on avait mené ce travail de préparation au CPCO avec le sous-chef opération, in case of. C'est-à-dire qu'on avait vraiment fait un travail de prudence stratégique en disant si d'aventure le décideur changeait d'avis, voilà ce qu'on devrait faire. Et donc on avait fait tous ces travaux avec beaucoup de détails, avec de l'innovation. On avait par exemple anticipé le retour du drone Harfang qui était en Afghanistan, qui ne servait plus à grand chose dans les missions en Afghanistan. Et donc on avait fait construire une piste à Niamey au cas où il aurait fallu déployer ce drone. Et donc cette piste, le dernier coup de bitume a été donné 5 jours après le début de l'opération. Donc on avait eu le nez creux en se disant, il faut être prêt et si le politique nous dit d'y aller, il faudra qu'on réponde extrêmement fortement et très rapidement. Et donc le 11 janvier 2013, quand on nous a dit d'y aller, je me souviens avoir sorti de mon tiroir, dernier tiroir d'en bas, une liste de courses, la shopping list, et d'être allé voir le général Kass, qui était le chef opération, en disant, mon général, qu'est-ce qu'on retient dans cette belle liste? Il m'a dit, vous faites tout. Et donc on est parti sur cette base. Voilà, c'était une
Vous êtes parti, vous ?
Moi, j'étais faire des visites de théâtre. En fait, j'en revenais le 11 janvier. J'étais à Niamey, puis à N'Djamena. Et je suis rentré par l'avion à 6h du matin pour préparer le conseil de défense. Donc j'avais le sable dans les oreilles encore. Cette opération a été extraordinaire par la réactivité dont ont pu faire preuve les forces. Puisqu'on a quand même réussi à déployer 4000 hommes finalement en quelques semaines et monter des opérations de toutes pièces dans un univers immense, puisque le Mali, c'est grosso modo la taille de la France plus de l'Espagne.
Ouais, mais est-ce que vous avez... Alors on peut dire que l'opération Serval, d'un point de vue militaire et tactique, a été extraordinairement réussie, puisque les djihadistes se sont reculés très rapidement, etc. Est-ce que vous n'aviez pas senti le coup, mais... Parce que, évidemment, le problème, ça a été ensuite la transformation de Serval en Barkhane et le fait qu'il y a du mal à en sortir structurellement de cette présence. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraissait déjà possible d'une manière ou d'une autre? Disons, cet horizon stratégique de, une fois qu'on va quelque part, comment est-ce qu'on en repart? Ou est-ce que, c'était vraiment les plans et vous arrêtiez à cet échelon-là, en quelque sorte?
Moi, je suis parti au mois de juin pour aller commander le Charles de Gaulle. Donc, on avait réfléchi à ces questions, qui sont des questions stratégiques et politiques. C'est-à-dire que c'est la question de la notion de victoire et puis la question de rentrer ou pas dans la dialectique du temps long. C'est-à-dire que quand une opération s'installe, elle rentre forcément dans une discussion avec l'ennemi. Et donc, les modes d'action se structurent d'un côté comme de l'autre. L'ennemi apprend. Ceux qui sont tués laissent la place à d'autres qui ont des meilleurs réflexes. On a vu, par exemple, des évolutions très, très nettes en termes de sécurité opérationnelle chez l'ennemi, donc qui ont rendu la recherche du renseignement beaucoup plus difficile. Voilà. Et donc, cette opération s'est installée dans la durée, avec des véritables succès, y compris des succès récents, mais effectivement dans une dialectique qui, sur le plan politique, est plus complexe, puisque passer le coup, l'éblouissement en fait de l'intervention initiale, eh bien on retrouve les fondamentaux du temps long de ces pays qui sont pauvres, dont les systèmes politiques sont fragiles, et puis qui sont soumis à des influences extérieures qui sont parfois contradictoires à nos intérêts. Voilà, donc aujourd'hui, l'opération est en train de vivre une mutation qui a été décidée par le président et qui correspond justement à cette évolution temporelle. Parce que on voit bien, et l'Afghanistan l'a montré, que ce dialogue, en fait, est quelque chose de complexe et qui n'est pas du tout figé.
Et quelle part, parce que en fait, comment dire, on peut le dire, on dirait pas comme ça, mais en fait, la marine est extrêmement présente dans Barkhane. Géographiquement, c'est pas une évidence particulière, mais on peut dire qu'il y a énormément de moyens de la marine, aussi bien des commandos marines que des avions de patrouille maritime dont on sait qu'ils servent beaucoup dans ces régions-là. Disons, comment est-ce que vous voyez Barkhane à l'intérieur de vos préoccupations, puisque vous avez tout le reste du monde à gérer aussi, quel est l'investissement, disons, au quotidien dans votre activité de chef d'état-major de la marine sur cette opération-là ?
Il y a un investissement humain important à travers effectivement les commandos marines, plus récemment les fusiliers marins participent à la protection de la Task Force Takuba, qui est à Menaka, ce qui est pour leur plus grand bonheur une façon de les opérationnaliser, puisque sinon ils sont plutôt dans des fonctions de protection de base en métropole. Et puis, les Atlantiques ont bénéficié de modernisation.
Donc les Atlantiques sont les avions de patrouille.
Les avions de patrouille maritime, qui font normalement de la chasse aux sous-marins, mais qui sont aussi d'excellents PC volants, et donc qui ont disposé de bombes. Donc on les a mis en place en crash programme en 2013. C'était là aussi c'était dans la shopping list, cette affaire-là. Et puis, ils ont bénéficié de modernisation de leurs moyens optroniques, de moyens de communication satellite. Et donc, la mission les a fait grandir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce sont des avions qui ont bien prouvé leur véritable faculté multirôle.
Alors, vous l'avez dit, ensuite, le chapitre suivant, ça a été évidemment le Charles de Gaulle. Donc, vous avez pris le commandement donc, de 2013 à 2015. Alors, on peut dire que vous aviez déjà été adjoint opération de 2005 à 2007. Alors, j'aurais simplement voulu vous interroger sur votre lien à ce bâtiment, qui doit être forcément assez particulier, puisque vous avez quand même servi de très nombreuses fois depuis le début des années 2000, ce qui est logique pour un pilote de l'aéronaval. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Charles de Gaulle pour vous ? Est-ce que c'est une sorte de maison ? Est-ce que c'est un poste et une responsabilité parmi d'autres ? Un stress aussi, j'imagine, puisque c'est quand même le fleuron de la marine nationale qu'on vous a confié pendant quelques années. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait aussi, d'en devenir le commandant à un moment ?
En 96... à la faveur d'un trou entre deux affectations, on m'avait envoyé sur le Charles de Gaulle, qui devait à l'époque être en tout Rafale. Et en fait, le retard du programme Rafale avait conduit à devoir réintégrer le superintendant. Il a finalement volé quasiment 15 ans sur ce bateau. Et donc, je faisais partie d'une petite équipe avec un officier d'appontage qui avait pour objectif d'adapter le bateau au superintendant. Donc moi j'étais sous chef de patrouille à l'époque, et donc j'y avais passé 4 mois dans le bateau qui était en construction à Brest, et donc j'ai été immergé dans la construction de ce bateau. Donc je connais certains détails, certaines histoires, des bonnes et des moins bonnes. Et donc quand je suis arrivé au commandement de ce bateau, finalement j'avais une profondeur historique sur ce bateau qui était assez forte, qui était celle des gens de ma génération, mais donc finalement une forme de légitimité technique qui était tout à fait favorable. Alors après, donc j'ai beaucoup navigué sur ce bateau des années en fait. Quand on compte le nombre d'appontages qu'on multiplie par 3, on fait un appontage tous les 3 jours, enfin grosso modo, je calculais, c'est quasiment plus de 1000 jours de mer sur ce bateau. Donc voilà, j'y ai passé du temps. Donc quand je suis devenu commandant de ce bateau, évidemment c'était une immense fierté. Et puis vous l'avez dit, vous avez parlé de stress, donc j'ai jamais ressenti du stress. En revanche, j'ai ressenti le poids de la responsabilité, en me disant il y a 2000 personnes, il y a 2 chaufferies nucléaires, il y a des avions complexes, et donc un investissement sur le résultat et le succès, en disant on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc il faut absolument se donner toutes les garanties qu'on va faire des choses compliquées avec succès.
Et du coup maintenant, enfin, on va évidemment en reparler, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la phase de construction, enfin de mise au point et de construction de son successeur, donc le porte-avions de nouvelle génération, qui a été officiellement décidé il y a quelques mois, qui devrait remplacer le Charles de Gaulle vers 2038, c'est la date envisagée. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas dans quelle mesure ça vous concerne, puisqu'il y a aussi d'autres services, enfin, il y a la Direction Générale de l'Armement, dont c'est le métier de construire des gros bâtiments comme ça, il y a l'état-major des armées à côté, il y a tous les arbitrages qui sont faits par le pouvoir politique. Donc disons, dans quelle mesure est-ce que vous vous engagez dans ce processus, vous, chef d'état-major de la Marine, puis qu'est-ce que ça vous fait de concevoir le nouvel engin, l'engin du futur, disons?
Alors d'abord, la décision prise par le président, c'était en décembre 2020, de lancer ce bateau et la conclusion d'un cycle de réflexion extrêmement fort, qui avait commencé quasiment dès la mise en service du Charles de Gaulle. En fait, il devait y avoir au départ un deuxième qui devait être lancé vers 2003. Et puis en fait, rapidement, c'est devenu un peu en dehors du jeu. Il y a eu le projet franco-britannique auquel il a été mis fin dans les années 2008-2010. Et puis donc, ça en est suivi une longue période d'une dizaine d'années pendant laquelle finalement la question du deuxième porte-avions est morte. Et la question du successeur a commencé à doucement émerger. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait pendant plusieurs années par plusieurs générations d'officiers pour se dire quelle est la place du porte-avions dans le système, quelle est la valeur militaire. Il y a eu beaucoup de discussions alimentées de manière publique sur sa vulnérabilité. Donc est-ce que ce bateau n'est pas un capital ship beaucoup trop vulnérable? Et puis donc
ça a été souvent dite qu'avec les nouveaux missiles anti-navires, notamment chinois, un porte-avions c'est la cible la plus chère du monde parce que c'est l'idée que les missiles de croisière anti-navires pourraient anéantir rapidement un porte-avions. Ça a été la réflexion, en tout cas la peur à un moment.
Ouais. Alors on a fait beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Vous savez que comme toujours, il y a une discussion entre l'épée et le bouclier. Et c'est pas parce qu'on a des armes hyper performantes qu'on n'a pas des défenses hyper performantes. Et les derniers exercices que nous avons menés avec des frégates modernes comme le Chevalier Paul ou le Forbin montrent que l'offensive n'a pas dit son dernier mot. Et puis, si vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, il n'y a quasiment pas une seule grande marine qui n'est pas en train de relancer des porte-aéronefs ou des porte-avions. Et les Chinois qui ont des armes anti-porte-avions en construisent à tour de bras. Donc, ceux qui pensent que cette arme est obsolète, je les invite à aller essayer de convaincre les Chinois qui devraient ralentir la cadence. Ça nous arrangerait. Voilà, donc le lancement du successeur est quand même une confirmation de la place importante du fait aérien en mer. Et ça restera quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, projeter un avion à plus de 1500 km de sa base en mer, où il est quand même difficile de l'attaquer parce que le système est très défendu, engendre un rapport menace sur risque qui est extrêmement favorable. Vous risquez un avion finalement de 80 millions d'euros avec un ou deux missiles anti-navires, avec un pilote pour détruire un croiseur ou une frégate de plusieurs centaines de millions d'euros avec son équipage, etc. Donc aujourd'hui, le fait aérien reste quelque chose de central dans la possibilité d'un affrontement entre marines. Et ça, toutes les marines du monde l'ont compris. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple les Japonais qui ont fait voler des F-35 sur leur porte-hélicoptère, c'était la semaine dernière. Vous avez les Coréens qui sont en train de se poser la question d'acheter deux porte-aéronefs sur un modèle italien. Vous avez les Turcs qui construisent des porte-hélicoptères d'assaut avec des drones. Enfin voilà, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui envisage une marine sans fait aérien.
Et la manière dont ça se met au point, parce que je veux dire, c'est dans très longtemps en fait, c'est dans 20 ans et il y a plein de technologies qui ont le temps de changer, des dispositions tactiques et stratégiques qui ont le temps de changer. C'est-à-dire, comment est-ce que, à votre avis, vous y réfléchissez? C'est-à-dire, est-ce qu'on réfléchit sur le modèle du Charles de Gaulle, qui est un porte-avions qui fonctionne très bien depuis 20 ans, et voilà, il faut préparer l'avenir? Ou est-ce que justement, il faut essayer de pas trop réfléchir avec l'exemple du Charles de Gaulle en tête pour justement, éventuellement, changer un peu de paradigme, pour penser vraiment l'avenir, pas seulement la continuité de maintenant?
Alors, on est dans un paradoxe, nous, la France, qui est assez particulier, parce que le temps capacitaire est très long. Et ça, on paye un peu les dividendes d'une... d'une période pendant laquelle, finalement, on a beaucoup étiré le temps. On a reporté les programmes. Prenez un exemple, hein, la marine devait avoir 18 frames en 2016, elle en aura 8 en 2024. Donc ça vous donne un peu l'étalement du
frame. Rappelons que sur les frégates multimissions, qui sont un projet franco-italien de très longue haleine, mais effectivement, on a dû vraiment réduire la voilure singulièrement, pour des raisons budgétaires notamment, quoi.
Alors le troisième porte-avions chinois qui n'est pas nucléaire, donc qui est quand même plus simple à construire, c'est quand même un bateau qui a été mis sur cale en 2018 et qui sera en service en 2025. Donc on est sur des temporalités beaucoup plus courtes compte tenu de la vigueur des outils industriels qui ont été mis en place par ces pays émergents pour rentrer dans la compétition. Donc effectivement, 2035, ça peut paraître loin. Néanmoins, on a des certitudes. La certitude numéro un, ça a été la nécessité de le propulser avec une propulsion nucléaire. Ça représente beaucoup d'aspects industriels, stratégiques et opérationnels. Et puis ensuite, sur le design du bateau, on sait qu'on va acquérir des catapultes américaines, des brins d'arrêt américains. Ça vous donne la taille du bateau. Ça, 300 mètres, ça vous donne son tonnage. Et ensuite, il restera toute la question de son système de combat, qui est à la fois celui de ses avions, et puis celui de son système de combat connecté avec ce qui aura été mis à bord du bateau et ce qui sera dans son environnement. Et ça reste évidemment très évolutif. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on a en termes d'autodéfense des perspectives extrêmement intéressantes en lutte anti-drone, en lutte anti-missile balistique. Et donc, évidemment, la protection du futur porte-avions sera d'un niveau bien différent de celle du Charles de Gaulle d'aujourd'hui.
Et d'ailleurs, comment est-ce que... Parce que déjà, concevoir un porte-avions, j'imagine que c'est pas simple, mais il y a aussi, il faut qu'il soit compatible avec le nouveau système de combat d'aviation, c'est-à-dire le SCAF. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que il faut... Le SCAF lui-même, il y en a des certitudes, mais on les a pas toutes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour avancer avec ces deux pieds, en quelque sorte, dont chacun doivent se connecter un peu? Mais en même temps, le SCAF, avec le SCAF, on peut dire qu'il y aura des effecteurs, des portées, des drones, etc. Il y a encore plein de, disons, de zones d'ombre, et en même temps, il faut quand même avancer sur la construction du porte-avions qui pourra l'accueillir, en quelque sorte.
En fait, ça fait partie des spécifications du SCAF. Donc, il y a un plateau dans lequel participent des officiers de marine, qui est dirigé par un général de l'armée de l'air, qui a d'ailleurs été un pilote de la 12F, donc quelqu'un qui a une expérience maritime, ce qui est tout à fait profitable. Et donc, on travaille par vignettes tactiques, c'est-à-dire en fait des scénarii. On essaie de voir finalement comment on va répondre à un certain nombre de situations opérationnelles. Et donc, on passe par le concept, qui ensuite est passé au filtre de la technique, en disant finalement votre concept, est-ce qu'il est techniquement applicable, et à quel coût, et ensuite on reboucle comme ça. Donc aujourd'hui les travaux ont quand même bien, bien avancé, le fait que dans les exigences de haut niveau, ce qu'on appelle le HL Core, le High Level Coordination Paper, entre les Allemands et les Français et les Espagnols, le fait que le nucléaire, donc la capacité de mettre en œuvre l'arme nucléaire, et le fait que l'avion puisse être embarqué sur porte-avions et son système, sont très très dimensionnants sur les solutions qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un travail itératif. En fin de décennie, en 2027, le premier démonstrateur volera. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra rentrer dans le détail des interfaces et de la façon dont le concept SCAF va pouvoir voler. Ce qui est certain, c'est que le Rafale volera à bord du futur porte-avions et probablement pour un certain temps.
Alors, je l'ai dit, vous êtes donc désormais chef d'état-major de la marine depuis septembre 2020, après avoir été pendant 2 ans chef du cabinet militaire de la ministre des Armées. Alors, évidemment, vous ne découvrez pas le poste, vous avez largement côtoyé vos prédécesseurs par les fonctions que vous avez occupées. Et quand même, c'est une question que j'avais déjà posée à l'amiral Prazuc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans le métier, au quotidien, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que ce soit par le temps que ça vous prend ou que ce soit par, disons, les tâches qu'il faut faire?
Non, pas vraiment. En fait, j'avais une vision, notamment par le cabinet de la ministre. En fait, on voit les choses ou par le haut, ou par le travers. Enfin, en tout cas, on voit bien comment ça fonctionne. Ce sont des métiers très prenants. Et ça, pour le coup, le cabinet a représenté une forme d'entraînement qui était tout à fait performant. Donc c'est des métiers où on compte pas son temps, compte pas son énergie. La différence entre un métier de cabinet et un métier de chef, c'est qu'on a à charge une partie de l'initiation des sujets. Et puis à charge la réflexion.
C'est-à-dire qu'il faut proposer les sujets dont ensuite s'emparent les décisionnaires politiques ou pas?
C'est-à-dire qu'il y a réellement une nécessité de produire une réflexion qui soit un cadre à la fois vers le haut, c'est-à-dire de pouvoir contextualiser, expliquer les problèmes qu'on souhaite résoudre, et puis un cadre pour l'action, pour les marins, pour leur donner la direction à prendre, les règles, les limites, et puis leur contextualiser leur action à chaque niveau. Donc ça, c'est effectivement le cœur du métier.
Alors, un de ces sujets, une de ces grands chantiers, enfin une des grandes préoccupations stratégiques dont vous devez vous occuper, c'est évidemment l'Indo-Pacifique. Alors, je vais juste dire, j'ai fait un appel aux questions sur Twitter pour les auditeurs du Collimateur, pour savoir s'ils avaient des questions à vous poser. Je veux dire, il y a deux très grands sujets qui sont revenus très majoritairement, c'est la haute intensité, dont on va reparler dans 2 minutes, et l'Indo-Pacifique, ce qui est très intéressant dans le fond, parce que c'est le reflet des priorités que la Marine nationale affiche aussi. Mais l'Indo-Pacifique, c'est vraiment un sujet qui montait en flèche depuis quelques années, ce qui suit notamment avec un peu de délai le basculement des préoccupations américaines, disons, vers cette région du monde. C'est logique pour la France, puisqu'il y a des territoires dans cette région, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité à ça, et pendant longtemps, c'est apparu quand même très loin. Et d'ailleurs, on a entendu certaines voix dire qu'après tout, dans la foulée de l'affaire des sous-marins australiens, il ne serait pas impossible de se désintéresser un peu de cette région, etc. Mais donc c'est une évolution que vous avez vue se faire, une préoccupation dont vous héritez. Donc comment est-ce que vous la comprenez et quelle place ça a, disons, dans votre activité quotidienne? Parce que vu de l'extérieur, parfois, on a l'impression que c'est la priorité absolue de la Marine nationale, que ça vous prend tout votre temps. Donc quelle place est-ce que ça a au sein de votre réflexion stratégique à l'échelle de la Marine?
Il faudrait, je pense, d'abord revenir sur le contexte général. C'est-à-dire que si vous prenez un document comme la revue stratégique, qui avait été présentée par Arnaud Danjean au président en 2018, vous prenez ce document, il n'est pas très long, et d'ailleurs j'invite les auditeurs à le télécharger et à le lire, pour se rendre compte, rien qu'à sa lecture, de son caractère obsolète. C'est-à-dire qu'un document qui devait donner un éclairant à 5-10 ans, en fait, en 2-3 ans, en fait, a perdu de sa verdeur. Pourquoi ? Parce que finalement, on se trouve face à une accélération sans précédent dans les 30 dernières années de la situation internationale. Et donc, ce qui était stable devient instable, et ce qui était de l'ordre devient du désordre. Et une partie du désordre est le fait des grands acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les membres du P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, sont des acteurs du désordre, par le non-respect ou la dénonciation de traités. On peut prendre l'exemple du droit de la mer, on peut prendre l'exemple du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Et donc aujourd'hui, ce club qui présidait la destinée du monde, en fait, est devenu dysfonctionnel à partir de la Libye, grosso modo, 2011. Les tenants, en fait, aujourd'hui, ne s'accordent plus pour résoudre ensemble les problèmes de la planète. Ils sont, au contraire, dans une compétition. Et donc les effets de cette compétition se démultiplient. On est dans une croissance exponentielle des problèmes. C'est, si vous voulez, pour la croissance exponentielle, c'est celle du virus. C'est tous les jours, ça fait x2. Voilà. Alors évidemment, c'est pas aussi fort que le virus, mais c'est à peu près l'esprit. Les taux de croissance des marines dans le Pacifique sont à 2 chiffres, voire à 3. Hein, sur 2008-2018, la marine chinoise, c'est plus de 100% d'augmentation. Vous avez aujourd'hui plus d'une vingtaine de frégates qui sont en construction en Inde. Alors vous me direz, c'est loin, mais quand on se rapproche, quand vous voyez le taux de croissance de la marine turque, de la marine égyptienne, de la marine algérienne, on retrouve ces dynamiques-là. Voilà. Et donc, c'est ce changement aujourd'hui qui nous prend un peu au réveil, alors qu'on était rentré dans le temps long, je vous l'ai dit, où finalement le format de la marine qui a été défini par le livre blanc de 2013 sera atteint en 2030. Donc on est confronté à des différences de trajectoire et d'accélération qui sont extrêmement puissantes. Alors l'Indo-Pacifique, pour revenir à votre question, traditionnellement, la marine met en avant le fait qu'on lui a demandé de contrôler un espace maritime considérable, 11 millions de kilomètres carrés, dont les deux tiers sont en océan Indien et dans le Pacifique. Ce sont des territoires qui font plusieurs fois la taille de la France, en Polynésie, autour de la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte, et donc des espaces qui sont aujourd'hui menacés sur le plan écologique, par le réchauffement climatique, par la pêche illégale, par l'épuisement des ressources, et puis qui sont potentiellement juridiquement contestés par finalement le fait accompli. Et on voit des flottilles complètes de pêcheurs qui sont massés à la périphérie de nos espaces, et on sait très bien que le jour où les moyens militaires ne seront pas là pour faire respecter leur intégrité, ils seront dévastés et contestés. Donc la France est présente en océan Indien, elle a quand même plus d'1,6 million de ressortissants qui sont présents dans la zone Indo-Pacifique. On en a beaucoup fait pour sortir quelques milliers de ressortissants de pays africains. 1,6 million ressortissants français dans la zone, c'est quand même pas rien. Et donc on y est impliqué au premier chef. Alors militairement, on peut dire que ce qui se passe de l'autre côté de la planète n'est pas si important. En fait, si, à plusieurs titres. Évidemment, ce qui se passe là-bas, avec aujourd'hui donc une militarisation très très forte et donc un risque d'affrontement militaire, en tout cas de friction. Et puis plus proche, en fait, la concentration des moyens militaires, notamment américains, crée des espaces dans le Golfe Persique, des espaces en mer Rouge, des espaces en Méditerranée, où le temps de la 6e flotte, où il y avait un ou deux porte-avions basés à Naples, pardon, est révolu. Ils ne font que passer de temps en temps et ils sont surtout très très concentrés en Asie. Donc cette polarisation entre les Américains et les Chinois est en train d'avoir des effets, y compris chez nous. Les routes de la soie arrivent en Europe. Elles arrivent au Pirée, elles arrivent à Gênes, l'interdépendance du commerce entre l'Europe et la Chine est quelque chose de fort, et donc ce qui se passera en Chine, ou en mer de Chine, ou en Asie, ou dans l'océan Pacifique, aura des répercussions très fortes sur notre économie, et probablement aussi sur notre sécurité.
Mais alors justement, comment est-ce que vous voyez les moyens spécifiques de la Marine nationale dans cette zone-là en particulier? Parce que il y a une question de nombre de navires qui ont tendance à se réduire. Alors, vous avez parlé des FREMM tout à l'heure, mais même à l'échelon plus local, on remplace les P400 par des patrouilleurs outre-mer, mais il y en a 4 de moins. On remplace les Aviso par des patrouilleurs océaniques, mais il y en a 7 de moins. Donc, il y a quand même une réduction tendancielle du nombre de navires. Donc, si la préoccupation, c'est ces zones-là, c'est de défendre les zones économiques, mais aussi la liberté de navigation, etc., par rapport à des tensions, la montée des tensions avec la Chine, mais que la Chine augmente vertigineusement son nombre de bâtiments. Comment est-ce qu'on fait aussi bien ou mieux? Comment est-ce qu'on maintient cette intégrité-là, mais avec moins?
Alors, le format de la marine, je vous l'ai dit, il a été défini en 2013. Sur une appréciation stratégique qui a quand même beaucoup évolué. Il sera atteint numériquement en 2030. 29-30, avec le renouvellement de la plupart des grands moyens, les patrouilleurs océaniques, les patrouilleurs outre-mer, l'aviation de surveillance maritime, les frégates de défense intermédiaire, les bâtiments ravitailleurs de force, etc. Donc il y a aujourd'hui, la décennie est extrêmement dense en termes de projets, en termes de mise à l'eau de bateaux, en termes de constitution d'équipage. Et donc c'est déjà pour moi le principal défi, c'est d'être à la hauteur des investissements qui ont été consentis, notamment par cette loi de programmation militaire. La question que vous posez plus largement, elle renvoie à l'appréciation que le gouvernement, que la représentation nationale fait et fera de la situation. Donc là, on a une loi de programmation militaire qui produit ses effets. Et donc, il faudra se poser la question pour la suivante, ou si elle doit être revue après les élections présidentielles, de l'adaptation de l'outil de la Marine nationale aux enjeux que vous avez évoqués. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le message que je passe à mes troupes, c'est que si des désaffrontements doivent survenir dans les 3-4 prochaines années, nous savons exactement ce que nous aurons entre les mains. Donc il y a à la fois un impératif de construire la marine de demain, à horizon 2030 plus, et ça c'est des questions qui sont aujourd'hui des questions éminemment politiques, et une question extrêmement simple et militaire pour nous, c'est de faire au mieux avec les moyens qui nous sont donnés. Il faut 3 ans pour faire un missile de croisière, il faut 3 ans pour faire un missile Météor ou pour faire un MDCN, il faut à peu près 3-4 ans pour construire une frégate, donc on sait exactement ce que nous aurons dans les 5 prochaines années. Voilà, donc le débat pour moi, il est simple, c'est que mes marins soient les plus opérationnels possibles sur des bateaux qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, dont les gestes techniques sont parfaitement maîtrisés et qui sont capables, le jour où on les met dans des situations de combat, de répondre avec succès.
Alors, une solution pour pallier en quelque sorte à un manque de moyens, en tout cas au fait qu'on n'a jamais autant de navires qu'on voudrait, c'est de prépositionner des forces, c'est-à-dire qu'il y ait déjà des navires à poste dans la zone. Alors on va reparler, il y a des partenariats qui se développent, il y a l'idée qu'on peut faire des escales dans des pays alliés, etc. Mais notamment, il y a une question qui va se poser a priori prochainement, puisque l'année prochaine, il va y avoir un référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, donc je ne vais pas vous demander de vous prononcer pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais cela dit, bah, il y a une possibilité que ça aille vers l'indépendance, auquel cas, bah, c'est une base de moins dans l'Indo-Pacifique. Je ne sais pas, comment est-ce que vous envisagez l'éventualité d'une présence Indo-Pacifique avec ce point d'appui, ce relais, cette base de moins?
Alors, en fait, la marine qui a été dessinée par son format, c'est dans cette zone-là, fondamentalement, une marine de souveraineté. Donc elle est à base de patrouilleurs et de frégates de surveillance, le mot est assez clair. Donc il ne s'agissait pas, quand elle a été conçue, d'envisager des affrontements de haute intensité sur la base des bateaux prépositionnés. Les P400 qui vont être remplacés par les patrouilleurs outre-mer, le premier a été mis à l'eau vendredi, sont des bateaux qui ont été définis pour patrouiller et assumer la souveraineté, la faire respecter, donc mener des opérations, on va dire, de police au sens générique du terme, pour surveiller la pêche, l'utilisation illicite des ressources.
Vous avez fait un territoire de moins, c'est un problème de moins de ce point de vue-là, éventuellement?
Ben, paradoxalement, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on me demande, ça me permettra de mieux surveiller la Polynésie, si vous voulez, si on n'est plus en Nouvelle-Calédonie. Bon, les choses ne sont pas faites, le référendum est en décembre, et pour le coup, c'est une question qui n'est pas dans mon champ. La question qui nous est posée plus largement, c'est le passage d'une marine de souveraineté à une marine de combat. On voit très bien les différents pays de la région, l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, etc., refaire des calculs en termes de forces militaires, qui sont ceux qu'on avait un peu laissés, parce que le contexte, la paix, les dividendes de la paix conduisaient un peu à sous-estimer ces questions-là. Aujourd'hui, on regarde le nombre de missiles, on regarde le nombre de bateaux, et donc on recommence à raisonner dans des catégories qui étaient celles de la guerre froide ou des années 30.
Mais alors, donc une autre solution, enfin, c'est l'idée de faire du multilatéralisme, enfin, de trouver des alliés, de s'entraîner avec, d'avoir autant de points de chute en quelque sorte dans la région. Alors on sait que ça a été le cas avec, c'est le cas un peu avec l'Inde, ça a été le cas aussi avec l'Australie, avec l'idée que des sous-marins français fassent relâche à Perth, ce qui met, enfin bon, c'est pas seulement un arrêt pour faire une pause, il y a des chaînes logistiques, il y a énormément de choses qui sont derrière ce genre de capacité. Il y a la possibilité de faire des escales aussi, notamment au Japon, avec l'éventualité de peut-être des bâtiments nucléaires, propulsion nucléaire, qui feraient escale au Japon, ce qui est une perspective d'ailleurs dont vous nous direz si elle est toujours d'actualité. La question, c'est comment est-ce que... On sait qu'il y a eu une évolution, disons, de l'ambiance, par rapport notamment à l'Australie dernièrement, ces derniers mois, disons, enfin, ces dernières semaines en tout cas. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans l'ambiance? Qu'est-ce que ça change aussi dans la perspective des partenariats? Si on admet que leur vendre des sous-marins, c'était très important, puisque c'est ce qu'on a dit pendant des années, qu'est-ce que ça fait de ne pas leur vendre?
Alors, d'une manière générale, on assiste à une augmentation très nette de la gamme des exercices entre alliés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que chacun met sur cale et lance des bateaux plus complexes, mais on développe des avions, des missiles, on voit que les exercices sont devenus plus que de l'affichage, ils sont devenus de la préparation opérationnelle et de la démonstration. Aujourd'hui, on voit toutes les marines occidentales et les marines asiatiques alliées sont dans la démonstration stratégique. Elles sont dans une forme de démarche dissuasive en disant attention, il y aura des limites et on a des forces capables de résister. La France développe des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays. On a par exemple celui qui est avec l'Inde qui est très actif. On participe à des exercices réguliers dans la zone. Notre mission Jeanne d'Arc va quasiment tous les ans dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Ça sera encore le cas de cette année. Elle n'ira pas dans le Pacifique mais elle ira en océan Indien. Le porte-avions Charles de Gaulle, il va régulièrement. Il a été à Singapour pour Shangri-La Dialogue en 2019. Nous allons y retourner. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, en fait, c'est la détermination avec laquelle on s'engage aux côtés de nos alliés, à côté des riverains de l'océan Indien et puis du Pacifique. C'est tous les matériels qui sont vendus qui démontrent le savoir-faire français. Et puis, pour la marine française, c'est la recherche de bras de levier. Quand je prends souvent cette image, quand vous n'avez pas un poids considérable pour soulever une grosse armoire, vous mettez un rondin et une barre à mine, et avec 60 kilos, vous arrivez à la soulever. Sur le plan militaire, c'est pareil, c'est-à-dire que les actions qui sont entreprises doivent avoir de l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est dans la démonstration stratégique, c'est dans les relais politiques, diplomatiques, des exercices qui sont faits et qui sont là aussi une manière de dialoguer, y compris avec les puissances émergentes et les contestataires. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. On a des moyens qui sont comptés. On ne peut pas assumer une permanence de bâtiments de premier rang dans le Pacifique. On n'en a pas le format. En revanche, on y va avec régularité et on utilise au maximum ce qui est fait pour lui donner de la résonance stratégique.
Mais ça change quelque chose le partenariat donc Australie, Grande-Bretagne, États-Unis. On sait que ça a jeté un grand froid diplomatique, ça c'est certain, ça a été fait pour. Enfin, les prises de position qui ont été faites étaient faites pour. Mais au niveau militaire, concrètement, enfin, on sait que les partenariats, les exercices, etc., c'est des choses qui se font sur du long terme, ça se prévoit longtemps à l'avance. Mais est-ce que ça s'en ressent quand même? Est-ce qu'on change un peu ce qu'on prévoit ou est-ce que le jour où on nous dira qu'il faut arrêter, on changera, mais pour l'instant, tout se poursuit comme c'était prévu.
Bon, évidemment, il y a un certain froid diplomatique qui est piloté par le Quai d'Orsay, avec des relations qui ont quand même pris un coup, parce que la manière dont ça a été fait était finalement peu amicale. Alors après, il faut être très réaliste, et nous, les militaires, ne sommes pas payés pour avoir des sentiments. Donc avec l'Australie, il y a aujourd'hui des coopérations importantes, par exemple pour aller ravitailler l'Antarctique, à la base du Mont d'Urville, et donc ça, évidemment, ça va continuer. On va retrouver nos camarades australiens dans des exercices multilatéraux, et donc, évidemment, on va coopérer avec eux. Après, évidemment, aller faire une escale triomphale à Perth avec le porte-avions, je pense que c'est, en tout cas, pas à l'ordre du jour. Maintenant, il ne faut pas se tromper dans le jeu. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en Asie, et cet accord trilatéral entre Américains, Britanniques et Australiens peut être vu comme l'expression de l'extrême fébrilité et de la tension qui règne dans cette zone. Et donc, un peu comme un champ magnétique, on voit les choses se polariser. La place à la demi-mesure est moins évidente. Aujourd'hui, les Américains ont battu de manière extrêmement énergique le rappel en disant, il faut être avec nous. Et sur le plan stratégique, pour la Chine, c'est plutôt une certaine agressivité qui sort de cet accord, qui manifeste la volonté américaine d'endiguer, en tout cas de freiner les ambitions chinoises. Alors pour nous, la France, évidemment, c'est un revers. Je ne vais pas le commenter parce que ça a été très largement commenté par le président, par le ministre des Affaires étrangères. Il y aura forcément un après. Sur le plan militaire, la principale conséquence pour les Australiens, c'est de devoir faire durer encore une quinzaine d'années leurs vieux sous-marins, les Collins, qui vont être hors d'âge. Donc militairement, en tout cas à court terme, c'est plutôt un appauvrissement de la donne militaire australienne que son renforcement.
Et au-delà de l'Australie, alors bon, le partenariat avec les États-Unis reste très structurant évidemment, mais même je pensais à la Grande-Bretagne parce que bon, le refroidissement a été très très net, disons, avec la Grande-Bretagne, mais il y a des programmes qui concernent directement la marine, notamment le futur missile de surface. Donc comment dire encore une fois, est-ce que ça peut, des projets comme ça, est-ce que ça peut continuer tel quel? Ou est-ce que bah il faut s'en inquiéter parce que c'est autant de retard qui, tant que le froid durera, c'est autant de retard qui va être pris sur le développement d'une pièce qui est quand même essentielle puisque c'est censé remplacer les exocets à terme qui sont les missiles disons principaux des flottes de surface.
Alors la relation avec les Britanniques en termes d'État à État est compliquée depuis le Brexit.
Même avant, les partenariats militaires avec l'Angleterre, ça fait très longtemps que c'est compliqué historiquement.
Ouais, enfin, il y a eu des grandes périodes d'amitié. Hein. La crise de Suez a été faite ensemble. Il y a eu l'entente cordiale. On a un passé qui était un peu tumultueux. Mais si vous voulez, sur le plan stratégique, le Royaume-Uni est la grande autre puissance militaire en Europe. C'est elle qui a de l'expérience, c'est elle qui a aujourd'hui deux porte-avions, c'est elle qui a du matériel américain de pointe. Alors évidemment, on pourra toujours arguer qu'elle est moins indépendante que nous, mais militairement, elle reste extrêmement forte et c'est un peu une tête de pont technologique américaine en Europe. Donc aujourd'hui, penser la défense de l'Europe, et pas uniquement l'Europe de défense, c'est penser avec les Britanniques. Et il y a bien des sujets avec lesquels nous nous retrouvons ensemble pour faire face aux perturbateurs qui sont autour de nous. Les coopérations aujourd'hui, eh bien, elles sont fondamentalement orientées par la politique et elles sont traitées comme telles à ce niveau. Donc aujourd'hui, oui, faire un missile avec les Britanniques, ça serait évidemment extrêmement profitable. Je pense que nos industriels l'espèrent. Et donc les discussions ont toujours lieu. Donc aujourd'hui, je ne vous commenterai pas là où on en est avec eux sur ce sujet-là. Encore une fois, je pense que stratégiquement, on est fondamentalement dans le même camp, dans la même barque, face au même problème, face à la même compétition et face au même désordre.
Alors, cette question de l'action de la France, des moyens de la France, y compris très loin, ça pose, on la pose déjà depuis tout à l'heure, c'est vraiment la question fondamentale, c'est celle du format de la marine, de ses dimensions, de ses capacités, et spécialement si on rajoute un nouvel élément dont j'ai déjà fait auquel j'ai déjà fait référence tout à l'heure, qui est le retour vers la haute intensité. Alors, je vais juste dire, on a fait une série de deux émissions très longues sur la question, mais globalement, il y a une question centrale qui est celle de la masse. Si on envisage un affrontement de haute intensité avec des adversaires de puissance, disons, comparable, il faut être capable de déployer des forces au bon endroit et au bon moment, et puis il faut aussi être capable de supporter l'attrition, c'est-à-dire de perdre des forces et d'en remplacer. Donc d'abord, dans cette perspective, quel est le format de marine qui pourrait être adapté à ce genre de problème, ce genre de soucis stratégiques selon vous? Si on regarde, c'est pas un mystère, aujourd'hui il y a 24 navires, disons, de premier rang dans la marine nationale, il y a 10 ans il y en avait presque deux fois plus. Donc on est sur un rétrécissement de format. Certes, ils sont bien meilleurs, ils sont plus modernes, mais l'arithmétique est un peu têtue en quelque sorte. La géographie aussi, on ne peut pas mettre un même navire à deux endroits en même temps. Donc quel est le format qui permettrait à la marine nationale de supporter des affrontements de haute intensité selon vous?
Alors il faut d'abord jamais perdre de vue que la France est une puissance nucléaire. Et que la dissuasion nucléaire, la non-visible ou l'invisible qui est sous les mers et la visible qui est portée par des aéronefs, qu'ils soient à terre pour la composante permanente et pour la force aéronavale nucléaire qui est sur le porte-avions quand celui-ci est disponible, borne l'espace de la haute intensité. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que sinon on raisonne dans du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces armes nucléaires, pour toutes les puissances qui en sont dotées, quelque part bornent la possibilité de la grande guerre patriotique. C'est-à-dire que l'idée d'avoir des classes d'âge entières rappelées pour aller ensuite se recevoir des armements assez simples et aller se battre au corps à corps, aujourd'hui cette idée n'a pas cours. La question sera résolue par l'emploi des armes nucléaires si la dissuasion venait à ne pas fonctionner, à ne pas être crue en fait. Donc aujourd'hui, la perspective de l'emploi des armes nucléaires borne quelque part l'ambition et borne la prise de risque. Voilà, et c'est tant mieux. Et donc ce qui veut dire que ce qu'on conçoit comme haute intensité, on le conçoit beaucoup plus comme des échanges qui peuvent être assez violents, mais assez brefs, pour aller tester la détermination des États dotés à justement défendre leurs intérêts, et notamment leurs intérêts vitaux. Donc ça c'est le cadre général. Donc après, on voit qu'on est rentré dans un désordre international, avec finalement des problèmes un peu partout. Si vous posez la question de vous dire je vais faire un trek de 10 000 km et que vous regardez à peu près où vous pourrez le faire sur la Terre, je pense que vous conclurez assez vite qu'il vaut mieux tourner en rond dans le Massif central parce que il y a quand même beaucoup d'endroits compliqués où vous pouvez terminer pendant de longtemps avec quelqu'un qui essaiera de réunir une rançon. Aujourd'hui, donc, ce désordre international est un peu partout et donc repose la question pour nous, la France, de la stratégie. La stratégie, ce n'est pas des moyens finis, c'est le meilleur accord entre vos intérêts, les buts que vous poursuivez et les moyens dont vous disposez. Et ça, c'est une vraie question politique aujourd'hui, pour se dire, finalement, à horizon 2030, quelle est la stratégie et donc quels sont les moyens que je vais me donner pour pouvoir répondre à ces objectifs. Voilà, donc si vous voulez, en termes de format, ce que vous dites est tout à fait sensé. C'est une vraie question, encore une fois, pour ceux qui vont présider aux destinées de ce pays. Moi, en tant que chef d'état-major de la marine, j'ai pour mission de mettre en œuvre les moyens qui me sont donnés et de pouvoir attirer l'attention sur l'inadéquation qu'on peut rencontrer entre des missions qui me sont fixées et les moyens qui me sont donnés.
Bien sûr, mais bon, une grande question dans la haute intensité, c'est notamment, je commençais à le dire, c'est l'attrition, c'est-à-dire, voilà, si on perd quelque chose, parce que l'ennemi est capable, est-ce qu'on peut le remplacer? Et ça, bah, même l'actualité assez récente, avec par exemple l'incendie de la Perle, donc le sous-marin nucléaire d'attaque, montre qu'en fait, pour les missions qu'on veut faire, on est déjà à flux très tendu, parce que la France ne pouvait pas du tout se permettre d'avoir un SLA de moins et continuer à remplir ses missions. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il faudrait pas un peu plus de gras, disons, pour pouvoir supporter une attrition éventuelle? Est-ce que dans le format actuel, on peut supporter des pertes?
Votre question est assez générique. Ce qui est certain, c'est que sur le plan stratégique, l'augmentation très claire du niveau potentiel de violence, c'est-à-dire en fait cette accumulation considérable d'armement, et principalement dans le domaine maritime, pose la question de la résilience stratégique. C'est-à-dire que si vous avez un bateau, c'est à la fois une perte tactique et une perte stratégique. Je pense que le cas d'usage qu'il faut avoir à l'esprit, c'est finalement l'histoire de Fashoda. Vous savez, Fashoda, c'est la colonne marchand qui part de Dakar, qui rencontre la colonne Kirchner, qui est partie d'Alexandrie. Tout ce petit monde se rencontre à Fashoda, au Soudan. Les Français remportent la bataille. Les Anglais l'entendent pas de cette manière et envoient la Home Fleet face au port de Brest et Toulon en menaçant de bombarder tout le monde, à l'époque où la marine française n'est pas équipée de bateaux de premier rang rivalisant avec les Britanniques. Et donc, on lâche Fashoda, le président Delcassé disant... nous avons les arguments, ils ont les armes. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la confrontation stratégique, elle est à peu près de cet ordre-là. C'est-à-dire que il y a un couplage qui va apparaître ou qui est déjà apparu entre la bataille tactique et les conséquences stratégiques. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui la question à laquelle il faut répondre. C'est-à-dire, il peut y avoir des pertes, oui, mais en fait, ces pertes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, auront une raison stratégique. Et donc c'est la capacité de nos États à pouvoir répondre de manière stratégique à une perte tactique. Si vous avez une frégate américaine qui se fait couler dans le détroit de Taïwan, ils en ont peut-être 50, les conséquences seront stratégiques. Si vous avez un avion pareil américain qui se fait abattre au-dessus de la mer de Chine, les conséquences sont stratégiques. Donc c'est surtout ça. Si vous voulez, on peut raisonner à l'infini sur la masse et sur les moyens qu'il faudrait et la marine de Georges Legge. Mais aujourd'hui, ce qui nous est demandé d'appréhender, c'est ce lien qu'il y a entre le fait tactique et ses conséquences stratégiques. parce que ce sont les grandes puissances qui sont en jeu, et donc qui vont aller se tester, qui vont aller tester finalement au-delà des moyens purs, ils vont aussi aller tester la volonté, la détermination de chacune d'entre elles à faire respecter ses intérêts.
Mais alors un moyen à la fois de tester à peu de frais et en même temps aussi de recréer de la masse qui est souvent envisagé, c'est la dronisation, enfin la multiplication de l'emploi des drones, donc de bâtiments, alors ça peut être marin, sous-marin, aérien, mais non piloté sur place, disons. Alors c'est, on sait que c'est une évolution, une perspective pour lequel la marine, enfin le monde maritime, est un peu pas en retard, en tout cas, mais qui a un pas derrière le grand basculement qui a eu lieu, par exemple, dans les airs, il y a maintenant presque une décennie. Comment est-ce que vous envisagez cette évolution, à la fois les projets qui sont en cours ou pas, et disons, est-ce que ça pourrait être, un game changer stratégique, mais quel moyen supplémentaire ça pourrait conférer, disons, à un horizon raisonnable?
Alors, vous dites qu'on est en retard, c'est tout à fait relatif, parce que par exemple, la marine est en train de s'équiper du système de lutte anti-mine du futur, le SLAMF, qui est en fait un système entièrement dronisé, et on est vraiment des pionniers dans le domaine.
Je ne parlais pas de la marine nationale, je parlais du domaine maritime en général par rapport au domaine aérien, où les drones sont quand même un fait essentiel depuis bientôt une décennie, quoi.
Alors aujourd'hui, on a des progrès qui ont été faits dans le navire dronisé. Donc on a aujourd'hui des expériences qui ont été faites pour des bateaux civils. Bon, il y a un problème de droit maritime, de responsabilité. C'est un peu comme la voiture autonome. Techniquement, on sait faire. Juridiquement, c'est plus compliqué. Sur le plan militaire, donc, on voit les drones arriver partout. Donc, je vous l'ai dit, sur le domaine sous-marin, la marine va mettre en œuvre quelque chose d'assez inédit. On va avoir des drones qui vont faire de la chasse aux mines en mer d'Iroise ou devant Toulon, avec un poste de commandement qui sera à l'intérieur de la base navale. Donc on va sortir du goulet et on va aller ensuite suivre des patterns de sonar et intervenir avec des drones sur des objets qui seront posés jusqu'à 200 mètres de fond. Donc ça, c'est vraiment un saut technologique. Dans le domaine aérien, toutes les plateformes aujourd'hui sont en mesure d'être équipées de drones. Donc on en a essayé un sur le Aviso, sur un vieil Aviso, un drone avion récupérable. Et puis nos patrouilleurs outre-mer vont être équipés de drones hélicoptères. Nos frégates, nos FDI, etc. Donc aujourd'hui, on avance dans ce domaine-là. Ce qui fait surtout défaut, c'est principalement les crédits et le nombre de sujets concurrents qui sont devant nous. Mais c'est clairement quelque chose qui est pris en compte pour diminuer le coût de la charge utile projetée. Donc typiquement pour la surveillance, c'est plus intéressant d'avoir un drone qui va sans nautique, sans équipage, pour aller juste observer, et ensuite on a les moyens d'intervention qui sont plus chers. Le domaine dans lequel on n'a pas encore beaucoup de certitudes, c'est les drones bateaux d'escorte, parce que finalement, sur une marine océanique qui se projette, qui fait des semaines en mer, la question de la maintenabilité de ces drones est quand même en question. Donc on voit des concepts pour passer des détroits, par exemple, on pourrait avoir des drones d'escorte qui seraient mis à l'eau et qui accompagneraient les forces. En revanche, des drones plus importants, aujourd'hui, ça nous paraît encore compliqué, mais l'US Navy, silence, ils ont fait un transit entre San Diego et Hawaï avec un bateau de 2000 tonnes, complètement dronisé, sans équipage. Voilà. Maintenant, ça pose beaucoup de questions, parce que si vous saisissez du drone, vous avez pris le contrôle d'un bateau de l'ennemi, donc il faut le protéger, donc c'est encore une discussion capacitaire qui n'est pas encore complètement mûre.
Juste pour terminer, une dernière seconde sur la haute intensité, il y a une question qui a été posée sur Twitter qui j'ai trouvé très bien. À quoi est-ce que ça ressemble pour vous, la haute intensité en mer? Comment est-ce que vous imaginez, parce que je veux dire, la dernière fois qu'on a eu des combats de haute intensité en mer, je sais pas, peut-être la Seconde Guerre mondiale, où c'était des salves aux canons, ça durait longtemps, etc. Aujourd'hui, tous les navires modernes sont équipés de missiles, et c'est comme ça qu'ils combattraient probablement, mais à quoi ça ressemble et combien de temps ça durerait, un combat naval de haute intensité, à votre avis?
Ce qui est certain, c'est qu'on a un changement majeur qui s'opère en mer, qui est le passage d'une mer libre, et qui était finalement le lieu en sécurité, d'où on pouvait mener des opérations vers la terre, à aujourd'hui la mer en espace contesté. La mer offre la possibilité de confronter des forces militaires complètement professionnalisées, sans dommages collatéraux. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui réfléchissent pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la force brute C'est vraiment bateau militaire contre bateau militaire. Et une fois qu'on l'a détruit, il coule par 4000 mètres de fond. Il n'y aura pas de monument aux morts ou peut-être à terre. Et en fait, la violence et la brièveté du combat naval est quelque chose qui aujourd'hui répond d'une certaine manière à l'ambition de confrontation qu'il y a chez les compétiteurs stratégiques. Donc le combat naval aujourd'hui est quelque chose qui est forcément envisageable et qui doit être envisagé. C'est quelque chose qui est par essence bref et violent. Les armes aujourd'hui transitent à des vitesses considérables. Donc le moins de missiles de croisière va à Mach 0,9. Donc 900 km/h. Aujourd'hui, on parle d'armes super ou hypersoniques qui arrivent à Mach 3. Le Forbin a battu pour exercice un missile qui allait à Mach 3. Donc Mach 3, on est quand même à 1500 mètres à la seconde. Enfin, ça va extrêmement vite. Donc ça va être bref. Là, on retrouve les fondamentaux de la stratégie. Soit vous êtes dans un concept d'opération offensif, vous avez de l'initiative, vous pouvez préparer votre affaire. Et donc là, le principe, c'est la fulgurance, d'obtenir le maximum d'effets en un minimum de temps. Soit vous êtes dans un concept défensif, et là c'est plus compliqué, et la question est celle de la surprise, c'est-à-dire de ne pas être surpris, d'avoir une forme de supériorité informationnelle, de savoir se mettre aux bons endroits, et d'être suffisamment vigilant, éveillé, au moment où la menace doit arriver. Aujourd'hui, sur une frégate de défense aérienne, le délai de réaction face à un missile qui va à Mach 3 est de l'ordre de quelques secondes. Donc il faut avoir un équipage extrêmement entraîné, à qui on est capable de dire « attention, la fenêtre de tir est maintenant ». Vous êtes emporté, c'est le moment où il faut être vigilant. Voilà. Et donc c'est toute l'ambition de la préparation opérationnelle d'aujourd'hui, où on souhaite que nos marins, nos commandants de bateaux, soient très agiles, très impliqués dans la concentration des efforts, d'avoir des équipages qui maîtrisent parfaitement leur système, leur mode dégradé, et qui sont capables, dans des circonstances qui peuvent être délicates, d'utiliser leur système de manière fiable. Si on a un coup à donner, il faut qu'il fasse but.
Et donc ce sera un truc complètement fulgurant, c'est-à-dire un missile qui arrive ou qui n'arrive pas, et qui décide... Enfin, c'est-à-dire le combat, paradoxalement, se passe avant, quoi. Se passe dans la détection, dans l'anticipation stratégique, etc., dans l'anticipation tactique, plus que dans l'échange de feu qui apparemment serait court. C'est ça dans votre idée ?
Ça ne veut pas dire que la guerre ne durera pas longtemps. Je pense que la dernière référence de combat naval d'ampleur, c'est la guerre des Malouines. Et si vous replongez dans la littérature de cette époque, ça a quand même duré des mois. Donc ça a été une énorme pression. Il y avait une menace sous-marine, une menace aérienne, une menace missile. Ça a été, les Britanniques ont quand même perdu 6 ou 7 frégates qui ont coulé. Ils ont eu 6 ou 7 bâtiments qui ont été partiellement détruits. Donc ça a été quand même très violent, mais ça a duré longtemps. À l'échelle du bateau, c'est extrêmement violent. Quand vous prenez le Coventry qui a été coulé par un missile Exocet, entre le moment où ils ont détecté le missile et le moment où ils ont perdu le bateau, c'était coulé quelques minutes. Donc le combat naval est effectivement très 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 violent sur des bateaux qui sont concentrés, qui sont massiques et où la densité d'hommes et d'armes est élevée.
Enfin, alors vous en parlez depuis tout à l'heure, mais il serait temps. Donc on parle des bâtiments, et c'est bien normal, c'est ce qui cristallise la tension, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui les opèrent, qui se forment en fait la ressource première aussi de la marine. Alors ça, de ce point de vue, donc j'aurais voulu vous demander comment vous envisagiez la conjoncture. On sait que, on est dans des temps assez favorables, les temps, disons, de vaches maigres de la fin des années 2000, du début des années 2010, sont un peu derrière nous, notamment parce que la loi de programmation militaire est assez favorable de ce point de vue-là. Mais en même temps, ça n'est qu'une partie du problème, les moyens, et maintenant il faut recruter, ce qui est un enjeu à la fois en général, et puis aussi sur certains segments particuliers. Et on sait que la vie de marin, bah, ça peut être challenger, disons, pour des générations peut-être un peu plus jeunes, y compris disons, en termes de mode de vie, avec le départ, l'éloignement, avec les proches, y compris souvent avec peu de préavis. Donc comment est-ce que vous envisagez ce problème du mode de vie du marin qu'on offre à des jeunes recrues, et la manière dont on répond, ou dont on, disons, favorise ses vocations en dépit de ce mode de vie qui est particulier?
Alors, il y a à la fois des invariants et puis des évolutions structurelles. Les invariants, c'est qu'on recrute des gens qui sont mus par le désir d'aventure. C'était mon cas il y a 30 ans. J'étais à l'école navale il y a 3 semaines et le même jour à l'école de mes sens. C'est un extraordinaire bain de jouvence de voir tous ces jeunes qui s'engagent et qui ont envie de servir leur pays, qui ont envie de rentrer dans un métier d'armes, qui sont prêts à faire des sacrifices. Donc ça, c'est ce qui rentre à cette vigueur, et je crois que ça, c'est extrêmement prometteur. Alors après, on est dans une société qui a beaucoup évolué, notamment par le fait que aujourd'hui, le taux d'emploi des femmes est égal au taux d'emploi des hommes, et que partir loin longtemps en équipage quand vous avez une famille, c'est devenu plus complexe qu'avant. Votre conjoint travaille, et donc aujourd'hui, la garde des enfants, le fait d'avoir deux activités professionnelles rend les choses plus compliquées, et on voit poindre de façon très nette des besoins croissants de prévisibilité des embarquements. Pour que les familles puissent s'organiser, pour qu'elles puissent prendre en compte l'absence d'un des deux parents pendant des périodes qui peuvent aller de 4 à 5 mois.
Et ça, vous y arrivez à et améliorer donc, cette prévisibilité?
Ça a été la grande aventure des bâtiments double équipage. Donc, c'est une expérimentation qui aujourd'hui produit ses résultats, qui permet d'avoir un excellent retour dans deux axes. C'est-à-dire que ça nous professionnalise et ça nous militarise nos équipages, parce que le temps passé à terre est mis à profit pour mieux s'entraîner, mieux se former, avoir des compléments de formation en ligne ou dans les centres d'instruction navale. Et puis, ça donne 4 mois de stabilité où les marins savent qu'ils pourront se consacrer à leur famille, ils seront présents, et leur conjoint, par exemple, pourra avoir un temps professionnel plus fort, parce que pendant 4 mois, ils sont là. Voilà, et donc le produit a rencontré son public, et donc aujourd'hui, on a 4 équipages doubles à Toulon et 4 en Bretagne. On a également des équipages doubles outre-mer, et puis à Cherbourg. Donc ça, c'est une manière de nous adapter à la société d'aujourd'hui. Après, le cœur du sujet, pour moi, c'est deux axes. C'est le développement des compétences, parce que la technologie avance extrêmement vite. Et donc, il faut que nos marins aient un développement de leurs compétences qui soit au rythme de la technologie. Et donc, aujourd'hui, on essaie de rendre beaucoup plus fluide l'acquisition des compétences. On essaie, au lieu d'avoir des gros passages en école qui sont un peu des refontes à mi-vie sur le plan des compétences, bien avoir un développement continu. Et d'ailleurs, on veut faire la même chose sur nos bateaux, sur le plan technique. Et puis, le deuxième axe, c'est la force morale. C'est-à-dire que il faut se réapproprier tout un vocabulaire autour de ce que veut dire le combat, concrètement. On évoquait ça au début de l'interview sur l'épreuve du feu, je vous racontais la guerre du Golfe. Ben c'est de permettre à nos marins, quel que soit leur grade, quel que soit leur âge, de s'approprier cette question du combat, ce qui veut dire je mets ma vie en jeu, je la mets en jeu avec mon équipage, j'ai une responsabilité particulière, y compris si je suis assez bas dans la hiérarchie, ensuite je suis aux ordres du chef des armées pour pouvoir mener les missions qui me sont demandées dans un contexte difficile.
Ça, vous pensez que ça a été un peu perdu? Enfin, je sais pas, peut-être avec la fin de la guerre froide. Enfin, vous pensez que c'est un horizon qu'il faut reconquérir en quelque sorte?
Moi, en tant que pilote dans l'aviation embarquée, finalement, je n'ai pas cessé de faire des opérations de combat depuis mon premier jour dans la composante. En revanche, je pense que le langage général autour du combat, c'était un peu édulcoré. On parle d'opération extérieure, ce qui est un mot un peu romantique. Et donc, on a aujourd'hui la nécessité de se réapproprier ce vocabulaire, ce qui veut bien dire qu'on a des hommes et des femmes qui sont exposés personnellement et qui vont aller porter le feu, qui vont aller détruire des objectifs. Et derrière le côté un peu aseptisé des mots, il y a un engagement personnel extrêmement fort qui se prépare en équipage avec le commandement et qui ensuite accompagne cet engagement personnel.
Enfin, dernière question, vous êtes donc à présent chef d'état-major de la marine, donc c'est difficile de faire plus haut, mais enfin, la question c'est quel échelon de commandement vous avez préféré? C'est-à-dire si on part depuis le moment où vous étiez seul dans votre cockpit, les moments où vous dirigiez des escadrilles, peut-être un bâtiment de taille intermédiaire comme le Surcouf, où il y a 150 personnes globalement, le porte-avions où il y a plusieurs milliers de personnes. Est-ce que vous revoyez avec un peu de nostalgie la simplicité du moment où vous étiez tout seul dans le cockpit, ou au contraire, plus c'est gros, plus c'est intéressant, plus c'est stimulant à commander?
Je pense que quelle que soit l'unité qu'on commande, petite ou grosse, au combat ou pas au combat, en fait, c'est à chaque fois un défi individuel et collectif. Un défi individuel parce que finalement, il faut être ambitieux, au sens de ambitieux pour l'unité qu'on commande, vouloir l'amener plus loin, pouvoir la sortir un peu de son habitus, et donc un défi collectif parce qu'il faut que cette ambition qu'on porte pour l'unité, elle soit partagée et elle ne sera atteinte que quand finalement le collectif l'aura compris et le mettra en œuvre. Et ça, c'est vrai tout le temps. Et à chaque fois que j'ai commandé une unité, j'ai rencontré cet enjeu de me dire comment être ambitieux, comment être crédible, comment avoir la vision qui permet de faire avancer l'unité, tout en étant certain que les gens vous suivent. Et donc de trouver les bons relais, de trouver les bons mots, de trouver l'empathie qui permet à chaque marin, à chaque adjoint, à chaque officier, à chaque marin de développer ses talents et de se dire je fais partie d'une aventure et je vais faire grandir l'unité dans laquelle je suis. Voilà, donc si je me remémore tous les commandements que j'ai eus, à chaque fois je me suis retrouvé confronté à ce défi.
Mais oui, c'est pas la... Enfin, comment dire, ne serait-ce que le truc interpersonnel, c'est-à-dire les connaître, bah, c'est possible à un certain stade. Puis il y a une échelle où on peut plus connaître tout le monde, on peut plus connaître les prénoms de tout le monde, on peut plus, enfin, à moins que vous ayez une mémoire absolument faramineuse, je pense pas que vous connaissiez les prénoms de tous les individus qui sont dans la marine. Donc, comment dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on perd aussi dans le fait de pas se connaître personnellement, ou est-ce que, disons, la grande machine, c'est aussi très intéressant justement parce qu'il faut trouver des relais pour maintenir cette dimension interpersonnelle.
Une immense chance que j'ai eue à travers le porte-avions et le temps que j'y ai passé, c'est qu'en fait, en tout cas pour ce qui concerne les officiers de surface et ceux de l'aviation embarquée, en fait on les voit tous passer. En disant, donc aujourd'hui, tous ceux qui commandent une frégate, je les ai croisés d'une manière ou d'une autre. Certains, je les connais personnellement. On a passé des heures au PC opération du Charles de Gaulle. Donc j'ai cette chance de pouvoir me dire que parmi les gens dans la marine, j'en connais bien un certain nombre, voire un nombre important. Après, évidemment, quand vous êtes à la tête d'une organisation de 35 000 personnes, finalement, vous connaissez bien votre cercle, vous connaissez bien votre cabinet, les gens de l'état-major, et puis c'est plus compliqué. C'est le côté frustrant d'être le chef, c'est effectivement d'être un peu plus loin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle je demande à mon cabinet de m'assurer un tiers de mon temps dans les ports, sur les bateaux, pour aller rencontrer les marins et ne pas profiter de l'acquis, mais pouvoir me recaler sur les compréhensions, les problèmes d'aujourd'hui, et puis d'aller toucher du doigt cet enthousiasme et cette ambition des marins qui commandent des unités aujourd'hui.
Merci beaucoup, Amiral Vandier.
Merci beaucoup.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que retours et commentaires sont grandement appréciés par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, comme le sont vos notes, commentaires et recommandations, que ce soit par Apple Podcast ou SoundCloud, ou plus simplement par le fait que vous parliez du podcast et le fassiez connaître autour de vous à des gens qui seraient intéressés par les différents formats de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.